When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on.
Des dernières émissions de Fracture, le code du travail a été modifié par la loi d'urgence sanitaire, les conflits dans les entreprises ont été nombreux, notamment parce que le travail ne se déroule pas toujours dans des conditions correctes permettant la sécurité des travailleuses et des travailleurs. Ça a même été plus loin, puisque par exemple les inspecteurs du travail se sont vus menacés, mis la pression, voire mis à pied, afin qu'ils ne remplissent pas trop leur mission, alors qu'elle est plus qu'importante en ce temps de crise sanitaire. Ainsi, ils ont été limités dans leur capacité d'agir et ont clairement été poussés à favoriser la relance de l'économie plutôt que la santé des travailleurs. Mais les syndicats, les salariés sont restés mobilisés, bien que ça ne soit pas des plus faciles actuellement. Ainsi, vous l'aurez compris, aujourd'hui dans Fracture, nous allons parler travail en temps de confinement et lutte de travailleurs. Pour ça, nous accueillons trois personnes, Sylvie, Xavier et Johan. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer cette discussion par une petite présentation de chacun d'entre vous.
Donc, je m'appelle Johan, je travaille dans le secteur de l'énergie. Je suis un gestionnaire de réseau, c'est comme ça qu'on appelle. Et je suis aussi secrétaire syndical CGT dans mon entreprise.
Oui, je suis conseillère en insertion professionnelle. J'accompagne des personnes qui sont loin de l'emploi, qui se dirigent dans le secteur du service à la personne. Et mon employeur, enfin, je travaille avec une association qui s'appelle Le Centre. Et je suis militante CNTSO.
Ouais, bah Xavier, moi je suis EDUXP dans la protection de l'enfant. Je travaille pour une asso. Je travaille dans une maison d'enfants à caractère social avec des gamins qui sont placés par le juge des enfants. Voilà, puis je suis syndicaliste à Sud Santé Sociaux, du coup, ce qui me permet d'avoir une vision un peu plus large, de voir un peu ce qui se passe à l'hôpital, dans les EHPAD, dans l'animation, dans le médico-social aussi. Voilà, et puis également, je participe aussi au Broyer du Social, qui sont un collectif syndiqué non syndiqué du travail social, qui essaye de défendre un peu nos métiers, nos services, voilà, et qui essaye de donner un peu au travail social une identité un peu plus combative, et que le travail social prenne un peu sa place dans les luttes sociales, comme il y a eu les retraites récemment, tout ça. Voilà.
Alors, avant
avant le confinement, comment ça se passait dans vos boîtes, on va dire sur le début de l'année, dans vos secteurs, c'était quoi un petit peu le climat social et un petit peu les conditions de travail respectives dans vos secteurs ou vos entreprises?
Donc nous, avant le confinement, dans l'énergie, il y avait surtout la bataille des retraites qui était bien engagée, qui était très engagée depuis le 5 décembre. Avant le confinement, on travaillait surtout à relancer la mobilisation telle qu'on l'avait connue au mois de décembre, c'est-à-dire que mars, avril redeviennent des mois, des gros mois de lutte. Le confinement a arrêté tout ça, enfin tout du moins il a arrêté le côté défilé dans la rue, parce que le côté ne pas vouloir de cette réforme et vouloir un monde social plus juste, pour ceux qui étaient dans la lutte avant le confinement, clairement la colère est pas éteinte, c'est juste qu'on est confiné chez nous, quoi. Le climat social dans l'entreprise, c'était plutôt ça. Nous, c'était vraiment les retraites au moment du confinement.
Nous, avant le confinement, on était aussi dans la lutte des retraites, hein, évidemment. Mais après, nous, dans notre secteur, c'est la merde, notre secteur au sens large. La santé et le social, c'est difficile depuis longtemps. Hein. On est dans des secteurs qui ont le point commun on nous demande toujours plus de missions avec toujours moins de moyens. On nous explique que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est mal organisé. Il y a tout le discours de management et d'évaluation permanente qui va bien. Le dernier exemple, c'est les CNPP, là, que la région Nouvelle-Aquitaine avait décidé de démanteler et qui était en lutte juste au moment du confinement. Voilà. Puis c'est des secteurs, qui sont tout le temps mis en, on a, il y a des mises en concurrence des acteurs, on subit de la précarisation, de la déqualification en permanence, on menace nos conventions collectives. Donc, puis comme partout, les salaires sont bloqués depuis je sais pas combien de temps. Donc oui, c'est des secteurs qui vont mal.
Alors nous, dans le secteur social, moi aussi je fais du social, nous on accompagne, enfin j'accompagne des travailleurs vers le secteur du service à la personne, et le secteur du service à la personne, c'est vraiment le sinistré de toute la partie santé, enfin du moins entre guillemets, parce qu'ils sont pas considérés comme santé, donc c'est des travailleurs qui sont extrêmement précaires, qui se mobilisent très très peu, parce que pour eux c'est le fait de se mobiliser, c'est pas dans leur culture, et d'autre part s'ils se mobilisent, ils ont plus d'emploi, et leur situation première est menacée. Alors avant le confinement, eh bien justement, les personnes que j'accompagnais, je les accompagne sur un projet professionnel dans le sens où elles vont se diriger dans le secteur du service à la personne. Soit c'est des reconversions, soit ce sont des personnes qui sont déjà dans le secteur et qui veulent augmenter leur situation de social en rentrant en formation ou en augmentant leurs heures de travail. Et depuis le confinement, eh bien toutes ces personnes sont soi-disant en emploi ou menacées d'exclusion, même si d'exclusion, c'est-à-dire des contrats ne sont pas renouvelés, même si dans ce secteur il y a eu quand même il y a eu plus de 50% des personnes qui n'ont pas subi de restrictions de mission, mais les missions étaient extrêmement précaires avec des moyens complètement inexistants. Et les personnes qui n'étaient pas en emploi, que moi j'ai accompagnées et qui restent dans le secteur d'attente de l'emploi, au lieu de faire des entretiens individuels en présentiel, je les faisais par téléphone, et au lieu de rechercher un emploi, on a plutôt fait de l'écoute psychologique, parce qu'il y a eu une atmosphère anxiogène due au confinement, et toutes ces personnes se sont retrouvées avec la peur de ne pas retrouver l'avenir, avec la peur de pas manger, les enfants étant à l'école, n'étant plus à l'école. Ça a créé des atmosphères qui étaient très très difficiles.
Là, à l'heure actuelle, vous êtes en télétravail, pendant le secteur de l'énergie, dans le secteur social, ça se passe un petit peu comment? Est-ce que les missions ont pu être maintenues, et maintenues dans quelles conditions, si c'est le cas?
Alors, nous, actuellement, c'est beaucoup de télétravail. La notion de service public est revenue très vite en place, alors que c'était des mots qui disparaissaient assez facilement dans le langage de nos directions. Là, le service public est revenu et d'un seul coup, toutes les missions qu'on exécute le reste de l'année étaient devenues des missions de service public d'un seul coup. Donc, ça a quand même été mis relativement facilement en place dans notre entreprise que les agents restent chez eux. Le télétravail, il a été bien, bien développé. Il va être développé encore parce que je pense qu'après le 11 mai, enfin, tout du moins, nous, c'est ce qu'on souhaitera, c'est que le télétravail continue après le 11 mai. Et il a été mis en place quand même assez des fiches réflexes Covid. Alors nous, on a été il y a un point où on n'était pas d'accord parce que des missions mises en place qui pouvaient être largement différées et on trouve encore que ça cassait la dynamique du confinement quoi. De nous sortir pour même si l'agent était tout seul, de nous sortir pour aller faire des missions. D'un second plan, pour nous à la CGT, c'était assez une situation, voilà, où on n'était pas d'accord avec la direction, et en plus on venait à utiliser du matériel qui manquait dans les hôpitaux ou qui manquait pour les personnels de santé, du gel ou des choses comme ça, on en consommait plus du coup, et voilà. Nous c'était un point de discorde avec la direction, c'était plus sur ce côté-là. Puis voilà, après les activités, bah en ce moment pour ma part, vu que moi je travaille sur le terrain, les fouilles ou les poteaux, je peux pas le faire de chez moi. Du coup, mon activité syndicale me prend beaucoup plus de temps qu'à la normale, parce que bah ça rentre dans les foyers, c'est un peu comme le télétravail dans les familles, le travail rentre dans les foyers, et du coup c'est la période actuelle est enfin, même complètement différente par rapport à l'organisation habituelle du côté syndical.
Et comment justement on arrive à se mobiliser comme ça pendant une période de confinement? Est-ce que ça doit changer les rapports avec les collègues? Tu disais que vous étiez beaucoup mobilisés.
Bah tout à fait. Alors c'est surtout avec les moyens comme ce soir là, avec Skype, avec Discord, avec WhatsApp. On n'a pas d'accès, nous les syndicats, on n'a pas d'accès au télétravail, donc on n'a pas accès au réseau de l'entreprise. On va peut-être l'avoir avant la fin du confinement, mais pour le moment, on n'a pas été prioritaire. Donc voilà, on met des choses en place en parallèle, les mails, beaucoup de téléphones. Puis on y arrive quoi, parce que il y a toujours des situations qui nous paraissent assez bizarres. Et puis c'est vrai qu'après, par les mandats CGT, du coup. Les questions famille, parce que en effet là le côté solidarité syndicale reprend sa place, et on a eu des réponses à amener aussi à des gens qui faisaient pas forcément partie de l'entreprise, mais bon bah voilà, des situations compliquées dans des boîtes, il y en aura encore sûrement pendant quelques mois voire quelques années dans certaines, si on prend par exemple le cas de l'aéronautique sur Châtellerault où le bassin va être très, très chamboulé pendant plusieurs années.
Et toi, Xavier, sur le secteur de l'accueil, donc structure d'accueil pour les enfants, tu disais, là, ça s'est passé un petit peu comment? Il y a eu du confinement, de l'arrêt de travail, du télétravail, ça se goupille comment?
Moi, je bosse dans une asso où il y a plein de services différents, mais donc il y en a certains qui télétravaillent. Bon, ben, nous, moi, par exemple, je télétravaille pas. Nous ça a été un peu on accueille 28 jeunes sur 3 sites, donc il a fallu s'organiser très vite la première semaine. Il y en a 21 qui ont pu être accueillis soit dans leur famille un peu élargie, soit dans des familles d'accueil dans lesquelles ils allaient en vacances, mais il y en a quand même 7 pour qui il n'y avait pas de solution, donc voilà, nous on est confinés avec eux, eux ils sont confinés au foyer et nous on bosse avec eux, et donc on continue complètement à bosser hein, parce que les écoles on fermait en tout cas physiquement, donc nous on a les jeunes, on est même passé d'une situation où on avait les jeunes occupés la journée dans leur scolarité, dans leur stage, dans leurs apprentissages, tout ça, à une situation où on se retrouve un peu plus seul quoi, avec les jeunes qui sont au foyer toute la journée, qui ont plus forcément les étayages qu'ils avaient d'habitude, comme par exemple les étayages psy ou des choses comme ça, ça s'est arrêté au moins de manière physique. Donc c'est vrai que le début ça a été quand même assez rock'n'roll, et puis il a fallu ça nous a complètement mobilisé quoi pour nous organiser et pour essayer de faire en sorte que les jeunes soient pris en charge quoi.
Sylvie, tu voulais intervenir?
Oui, nous au centre, le centre, nous sommes une association qui mettons en relation les demandeurs d'emploi et les organismes de services à la personne qui recherchent du personnel. Et donc nous, dans nos tâches, alors moi je suis en télétravail 7 heures par semaine, et le reste je suis en chômage partiel parce que je faisais du présentiel, donc de toute façon il n'y avait pas la possibilité de continuer le présentiel. Néanmoins, le centre s'est extrêmement bien mobilisé parce que on a beaucoup secondé les organismes de service à la personne, type agence, type senior compagnie ou AD senior, genre de choses comme ça si vous connaissez. Qui étaient vraiment perdus dans cette situation-là, et également les salariés dans lesquels on a bien pu les orienter vers les possibilités de gestes techniques, de gestes de situations, notamment les situations du droit du travail de ce type. De droit de retrait, donc on les a bien aiguillés sur cette situation là et également on a fait une enquête sur les moyens qu'ils avaient sur les sites de leur travail, notamment s'ils étaient équipés de protection masque sur chaussures, casaque et gants. Ça a été vraiment un grand flop. Parce que, ben évidemment, comme on est, ils sont les derniers chariots du convoi, eh bien, on y sont retrouvés sans la possibilité de travailler sans masque. Et malgré vraiment un grand soutien de leurs employeurs, qui à 50% les appelaient toutes les semaines pour leur demander comment ça se passait sur le site, et les employés suite à notre production de documents comment travailler avec peu de moyens qu'on a diffusé sur notre site, ils ont pu arriver à travailler à peu près correctement. Concernant nous, à l'équipe, dans l'équipe du centre, eh bien, on travaille par vidéoconférence. On a des vidéoconférences régulièrement tous les 15 jours pour pas perdre le contact. Mais j'avoue que quand on accompagne régulièrement des personnes et qu'on se retrouve véritablement confiné entre quatre murs ou même avec des personnes sympathiques qui vivent avec nous, c'est assez difficile, quoi. Et en plus, il a fallu vraiment que nous, les conseillères, on gère les personnes qu'on accompagnait pour qui étaient vraiment dans une grande grande détresse, et on les a vraiment orientées vers des structures, voire même des structures qui il y avait j'ai même eu des personnes qui étaient confrontées avec de la violence, et donc j'étais obligée de les orienter vers des structures adaptées. Voilà.
Xavier, voilà. Tu parlais tout à l'heure des broyés du social. Est-ce que toi, tu as des retours un peu plus larges que ton secteur en particulier sur les conditions de travail et l'impact que ça a sur le public en ce moment, d'autant que tu disais que c'était un secteur déjà bien fragilisé, quoi.
Ouais, j'ai des retours, mais c'est vrai que c'est un climat un petit peu bizarre, en fait, où chacun, un peu dans nos boîtes et dans nos services, qui sont tous bien différents, qu'on travaille avec des adultes handicapés, avec des jeunes handicapés, avec des enfants placés par un juge, des enfants, bref, chacun dans son truc, on vit des trucs un peu hors normes, on vit des situations complètement exceptionnelles qu'on n'a pas l'habitude de vivre et de gérer. Donc c'est vrai qu'on sent que les gens, ils sont un peu mobilisés dans leur boulot en essayant de s'organiser au mieux, et que pour l'instant, ça décale un peu le syndicat et la lutte, en tout cas, peut-être un peu au deuxième plan, tellement on est mobilisé pour faire continuer l'accueil dans des conditions pas faciles. Alors après, il y a eu des questions qui se sont posées, puis on s'est tous connectés et soutenus pour la question des masques, des équipements. Voilà. Mais en tout cas, ça fait un climat un peu bizarre où les gens, ils vivent des sentiments très forts qui, à mon avis, vont permettre la mobilisation plus tard, quoi, hein, comme la fierté déjà de faire des missions quand même, accueillir des enfants en temps d'épidémie, c'est forcément une mission noble, soigner des gens, c'est des missions nobles, donc les gens, ils sont fiers de l'assumer, mais en même temps, ils sont en colère parce que ils l'assument dans des conditions difficiles, pas toujours reconnues. Alors autant les soignants, on en parle un peu dans les médias, mais par exemple, tous ceux qui ont les travailleurs sociaux ou le médico-social, c'est complètement absent des discours politiques. Donc voilà, il y a la peur, hein, aussi, la peur d'être malade, la peur aussi de contaminer sa famille. Enfin voilà, donc ça fait tout un une espèce d'état d'esprit, d'ambiance un peu bizarre, qui est à la fois motivante parce que il faut quand même, on vit des choses qui sont fortes aussi entre nous avec les collègues et tout ça, des choses qui à mon avis permettront la mobilisation plus tard. Pour l'instant, on est dans des on est dans des préoccupations très pratiques d'avoir des masques, comment on s'organise, voilà. Donc ouais, un climat un peu d'urgence, quoi.
Nous, il y a aussi les revendications au niveau national. Ça a fait éclater ça aussi, le fait du confinement. On peut travailler plus facilement aussi en visioconférence au niveau national. Et entre autres, nous, dans la Vienne, en ce moment, j'attends la réponse de la direction, mais EDF a déjà pris le devant, mais c'est de garantir la fourniture d'énergie à l'ensemble des usagers particuliers. Alors, je vous le lis tel quel, hein, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. En suspendant jusqu'au 1er septembre 2020 toute réduction ou interruption de fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que les pénalités de retard pour tous ces clients particuliers. Et pour les clients qui seraient en situation difficile, parce qu'il va y en avoir à la sortie, que ces fournisseurs s'engagent également à assouplir ces modalités et échéanciers de paiement. Justement pour... parce que voilà, nous on est des entreprises où aujourd'hui l'électricité, bah, de toute façon, elle est consommée, voilà, donc il faut qu'on puisse aussi nous porter notre pierre et aider les populations, quoi. Et ça, c'est une revendication portée directement par les différentes CGT, mais pas que, parce que voilà, dans l'énergie, il y a une notion de service public qui est encore présente et qui sera présente après le Covid, quoi.
Et justement, Johan, toi, tu parlais un petit peu au début des équipements. Là, quand vous êtes amené à sortir sur le terrain, quand on parle des équipements, des épices, et tu disais justement que vous n'étiez pas forcément prioritaire par rapport à d'autres secteurs, est-ce qu'à l'heure actuelle, les employeurs, et d'ailleurs pour les autres secteurs aussi, vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce que les obligations de fournir des épices sont remplies par les employeurs, de manière à ce que les travailleurs qui soient au contact ou pas de public puissent travailler dans des conditions... sûr pour eux vis-à-vis sanitaire.
Alors nous côté alors dans mon entreprise, parce que dans l'énergie, je sais pas si c'est vrai partout encore, mais en tout cas dans nos entreprises, les masques on en a eu, comme tout le monde, on en a donné au début, on a fait le minimum pour pouvoir fournir, voilà, c'était réquisitionné pour les hôpitaux, mais après nous on a quand même la service public sur la mise en sécurité des biens et des personnes pour tout ce qui est accident de la route dans un poteau, enfin toutes ces choses-là, ça arrive quand même en période de confinement. Il y a les dépannages directement chez les usagers. Donc nous, on avait quand même accès à un certain nombre de masques dans les agences, dans les différentes agences. Le gel hydroalcoolique, c'est pareil, il y a eu une entente qui a été faite avec le Civer, enfin Eau-de-Vienne, leur labo, on confectionnait du gel hydroalcoolique et voilà, il y en a eu de distribué dans les différents services publics. Il y a eu de la solidarité qui a été mise en place. Au début, on n'avait pas beaucoup. Là, logiquement, on va avoir des masques tissus aussi. L'entreprise va nous fournir des masques tissus pour pouvoir faire une reprise d'activité pas à la normale, parce que il y a beaucoup d'acteurs qui vont être encore en difficulté d'avoir tous ces moyens-là d'équipement. Sur les chantiers, il y a des normes, des nouvelles obligations aussi, avec des points d'eau, avec la distanciation, enfin toutes ces choses-là. Plusieurs entreprises sur le même chantier, pour le moment, c'est pas encore autorisé. Enfin voilà, donc il va y avoir pas mal de contraintes encore. Mais dans mon entreprise, pour le moment, ils nous annoncent qu'on va avoir, tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre une activité sereine.
Ouais, nous, il y a eu aussi un petit retard au début là pour qu'on ait tout le matériel, mais on a fini par l'avoir. Mais on sent bien que dans le déconfinement, que ça va poser tout un tas de problèmes. Ce matin, j'avais au téléphone par exemple une fille qui travaille dans une structure avec des sourds aveugles. Donc eux, ils signent dans les mains, ils touchent les mains pour faire la langue des signes, mais par toucher, quoi. Donc par exemple, eux, ils essayent de se battre pour dire non, mais nous, vu le public qu'on accueille et vu qu'on est obligé de se toucher les mains en permanence pour communiquer, il faut absolument que les personnes soient dépistées avant de rentrer dans l'établissement, parce que là elles sont censées revenir avec le déconfinement à partir du 11 mai. Donc eux, ils disent voilà, là il faut que tout le monde soit dépisté et on fait rentrer que ceux qui ne sont pas malades, parce que sinon ça va être la catastrophe avec le moyen de communication, voilà. Donc nous, on est soumis à tout un tas de trucs comme ça, où chaque particularité d'accueil en fait fait que des fois on est obligé de se battre pour dire bah voilà, là il faut tel matériel, là il faut dépister, sinon on peut rester fermé. Enfin voilà, on aura tout ce genre de problématique qui va se poser, chacun avec ses particularités, dans tous les services, pour notamment le déconfinement qui va être vraiment compliqué à gérer dans les structures. C'est clair que ça va être un casse-tête.